appela Ésaü son fils aîné et lui dit « Mon fils ». « Me voici, » répondit-il. Il reprit. « Tu vois que je suis devenu vieux et j'ignore le jour de ma mort. Il est temps. Emporte donc tes armes, ton carquois et ton arc et cours dans la campagne, chasser du gibier pour moi. Prépare-moi un repas comme je l'aime, apporte-le-moi et je le mangerai pour ensuite te bénir avant de mourir. » Alors, il faut se rappeler que cette bénédiction est une sorte de cérémonie d'institution qui a une portée officielle et tout à fait irrévocable. Une fois cette bénédiction donnée, il n'est plus possible de revenir en arrière et le bénéficiaire devient l'unique héritier légitime du donateur. Si Jacob veut vraiment faire valoir qu'il a obtenu le droit d'aînesse par une petite transaction avec Ésaü, il devient urgent d'en informer Isaac. Mais ce n'est pas du tout ainsi que ça va se passer. Car c'est Rebecca, sa mère, qui va prendre les choses en main. Rappelons-nous que juste avant la naissance de ses fils, elle avait reçu une prophétie qui disait « Le grand servira le petit ». Et elle était bien décidée à intervenir pour que cette prophétie se réalise. Et pour cela, Rebecca ne voulait pas laisser faire Isaac, parce qu'elle connaissait trop bien son attachement à Ésaü. Elle dit donc à Jacob, donc nous sommes en Genèse 27, verset 8, « Maintenant, mon fils, écoute-moi et fais ce que je t'ordonne. Va donc au troupeau. « Prends-y pour moi deux beaux chevreaux, et j'en préparerai pour ton père un repas comme il aime. Tu l'apporteras à ton père, il mangera pour te bénir avant sa mort. » Voilà, donc une mystification soigneusement préparée. Il s'agit de prendre Ésaü de vitesse et de se substituer à lui pour intercepter la bénédiction d'Isaac avant qu'il ne revienne de la chasse. Le plan est clair, mais Jacob est réaliste. Il redoute d'être démasqué par son père et il objecte à sa mère, donc Genèse 27, verset 11, « Mon frère Ésaü est un homme velu et moi je n'ai pas de poils. Il est possible que mon père me touche et se rende compte de mon imposture. J'attirerai sur moi une malédiction et non une bénédiction. » Voilà, il n'a pas tort. C'est là, alors, qu'on se rend compte de l'absolue détermination de Rebecca qui lui répond « Vienne sur moi ta malédiction, mon fils. » Et elle va trouver des solutions. « Écoute-moi seulement. Alors, va me chercher ce que je t'ai dit. » Il alla, puis rapporta à sa mère qui prépara donc un repas comme son père Isaac l'aimait. Rebecca prit ensuite des vêtements d'Ésaü, son aîné, les plus précieux qu'elle avait dans sa maison, et en revêtit Jacob. Et elle recouvrit de la peau des chevreaux ses mains et la partie lisse de son cou. Voilà, le déguisement est parfait. Alors Jacob décide qu'il peut s'approcher de son père en apportant le repas. Seulement, Isaac était aveugle, bien sûr, mais pas sourd. Et en entendant la voix de Jacob, il croit la reconnaître. Alors il interroge. Et il est aussi surpris d'ailleurs qu'Ésaü ait pu faire aussi vite pour aller chasser du gibier, être revenu et avoir déjà préparé un repas. Mais Jacob a des arguments. Isaac a donc des doutes et il demande finalement à toucher Ésaü pour pouvoir faire vraiment confiance. Et là, le subterfuge de Rebecca va fonctionner. Elle a réussi à mettre la fourrure sur les mains et le cou de Jacob. Et elle réussit aussi à tromper les mains de son mari, qui, touchant une peau velue, fait donc confiance à Jacob. Alors, après avoir bien mangé et bu du vin, Isaac dit, donc Genèse chapitre 27, verset 26, Viens donc plus près et embrasse-moi, mon fils. » Il s'approcha et embrassa Isaac, huma l'odeur de ses vêtements et le bénit en disant « Oh, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que le Seigneur a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et du gras terroir, du froment et du vin nouveau en abondance. Que des peuples te servent et que des populations viennent se prosterner devant toi. Sois chef pour tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit qui te maudira, béni soit qui te bénira. » Voilà, donc trompé aussi par l'odeur des vêtements que Jacob avait eu, les vêtements d'Ésaü, la bénédiction d'Isaac est donnée à Jacob. Tout est scellé, il vient de le donner sans savoir à son fils cadet. C'est à ce moment-là qu'Ésaü revient de la chasse et gentiment prépare à son tour le repas attendu et l'apporte tout confiant à son père. Isaac est surpris, bouleversé. Le texte dit, verset 33, « Isaac fut saisi d'un tremblement extrêmement violent. » Il vient de comprendre qu'il a été trompé, qu'il a donné sa bénédiction à quelqu'un d'autre que son fils Ésaü. Il a compris que Jacob avait capté cette bénédiction qui est irréversible et que l'histoire familiale n'allait plus se dérouler comme il l'avait souhaité. Et Ésaü, un instant effondré, va vite surmonter sa désillusion pour entrer dans une colère noire. Il annonce à qui veut l'entendre qu'il se débarrassera de Jacob, qu'il le tuera dès qu'Isaac sera mort. Alors là, Rebecca prend conscience du danger et va conseiller à son fils Jacob de fuir et d'aller se réfugier dans la famille de son frère, donc l'oncle de Jacob, en attendant qu'Ésaü se calme, ce qui va prendre quelques années. De son côté, Isaac, qui subit et se plie à la réalité des événements, va en profiter, toujours sur les conseils de sa femme, un peu pressant d'ailleurs, pour organiser le mariage de Jacob avec une fille, justement, du clan de Bethuel, le père de Rebecca, parce que décidément, les épouses hittites d'Ésaü lui déplaisent toujours autant. Voici donc les paroles d'Isaac à son fils Jacob, cette fois, chapitre 28, verset 2. « Va en plaine d'Aram, à la maison de Bethuel, le père de ta mère, et prends là-bas une femme, une des filles de Laban, le frère de ta mère. Que le Dieu puissant te bénisse, qu'il te rende fécond et prolifique pour que tu deviennes une communauté de peuples, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta descendance pour que tu possèdes le pays de tes migrations, le pays que Dieu a donné à Abraham. » Ainsi faisant contre mauvaise fortune bon cœur, Isaac bénit son fils Jacob, cette fois en toute légitimité, et celui-ci part rejoindre la famille de sa mère en terre araméenne. Mais comment comprendre que l'immense destin qui attend Jacob, puisqu'il va devenir le père des 12 tribus d'Israël, il a trouvé son origine dans un conflit familial plus ou moins sordide, avouons-le. Isaac, devenu vieux, a littéralement été trahi par sa femme et son fils cadet, qui organise une sorte de captation de l'héritage spirituel. Ce pauvre homme fut désavoué dans son amour pour son fils aîné, dont le côté viril et un peu brut est presque moqué, en tout cas mis à mal par sa femme, qui ne cache pas sa préférence pour son fils Jacob, plus raffiné et subtil. Les deux frères vont donc devenir des ennemis, et on comprend bien pourquoi. Ils ne se réconcilieront que bien des années plus tard, juste à temps pour assister à la mort de leur père Isaac, qui mourra à l'âge de 180 ans. Et c'est ensemble, finalement, qu'Ésaü et Jacob vont enterrer leur père dans le caveau familial à Hébron, où, dit-on, Rebecca fut ensuite enterrée à ses côtés. Ce ne fut pas vraiment une famille modèle, mais elle fut quand même à la hauteur de la bénédiction de Dieu à Abraham. Voilà, ainsi s'achève notre moment d'attention au visage d'Isaac. Et à présent, je vous dis au revoir, chers auditeurs, et à bientôt pour découvrir d'autres visages de la Bible.
Bonjour, c'est Nathalie Cardon. Ouvrez la porte vers une vie plus épanouissante et spirituellement enrichissante avec l'émission Des Clés pour Vivre. Je vous invite à un voyage inspirant au travers des expériences de témoins exceptionnels. Explorez des récits de transformation personnelle et de découvertes spirituelles qui résonnent avec notre vie quotidienne.
Des Clés pour Vivre, une série à retrouver tout l'été, du lundi au vendredi, à 5h45, 11h45 et 20h, intégrale le samedi à 11h et le dimanche 18h.
Comme un rêve éveillé, inondé de ciel étoilé, je suis devenue mère. Un soleil d'or au creux de mes bras, mon enfant, mon trésor, au mille et un éclats, et jusqu'à l'aurore de tes premiers pas. Reste blotti contre moi, les anges chantent pour toi. Douce étreinte, cœur à cœur, sur ta peau de velours, un souffle d'amour. Douce étreinte, cœur à cœur, tendre instant de bonheur où tout devient meilleur. Éternelle qui embrase mon cœur, d'un amour originel, je te rends grâce, Seigneur. Un silence d'or à jamais en moi, mon enfant, mon trésor, au mille et un combat, jusqu'au crépuscule, j'ai suivi tes pas, bien au-delà de la croix, les anges chantent pour toi. Douce étreinte, cœur à cœur, sur ta peau de velours, un souffle d'amour. Douce étreinte, cœur à cœur, tendre instant de bonheur où tout devient meilleur. Douce étreinte, douce étreinte.
Radio Présence, 18h. Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Le thème de la douceur, et en particulier la douceur de Jésus dans son évangile, sera le fil conducteur de cette série que je vous invite à suivre. Au micro et pour intervenant, je reçois Jean-Thomas de Beauregard, religieux dominicain de la province de Toulouse, au couvent de Bordeaux. Il dirige le Studium de philosophie, auteur d'un premier ouvrage, un ouvrage à succès, La spiritualité de la bûche, paru aux éditions du Cerf, et ce tout dernier, Hardy les Dus, petit éloge de la douceur, toujours aux éditions du Cerf. Dans ce dernier ouvrage, l'auteur explore cette douceur, cette vertu de douceur à travers une perspective chrétienne. Je vous salue. Bonjour, frère Jean-Thomas de Beauregard.
Bonjour.
Alors, ravi de vous retrouver, puisque ici même, il y a 2 ans, pour ce rosaire, je vous recevais pour ce tout premier livre, La spiritualité de la bûche, qui a eu aussi un rayonnement.
En tout cas, c'est ce que l'on me dit, alors, et puis quelques lecteurs ont pu me le confirmer, et donc c'est bien, parce qu'on écrit d'abord pour prêcher, et pas seulement pour se faire plaisir, mais pour que des âmes puissent, des personnes puissent découvrir le Christ et l'Évangile à travers ces livres. Donc si ça atteint son but, ma foi, tant mieux.
Alors c'est un deuxième défi, puisque c'est un deuxième ouvrage, pour nourrir et rejoindre les âmes. Donc on est au cœur de l'évangélisation dans l'Écriture.
Oui. Hein? Oui, oui, oui.
On évangélise, on enseigne, on nourrit.
Exactement. Et puis c'est la vie dominicaine. Je suis dominicain. Chez nous, ça passe par la prédication dans tous les genres, écrit, oral, médiatique, ce qu'on veut. Mais enfin, en tout cas, il faut qu'à un moment, le message passe.
Alors, racontez-nous un petit peu. On aime bien les histoires nos entretiens. Qu'est-ce qui vous a inspiré d'écrire ce livre, et en particulier sur ce thème qui revient dans les évangiles avec le personnage du Christ, ce thème de la douceur, cette vertu de douceur? Voilà, quelle est un peu la genèse de ce deuxième ouvrage? On vous écoute et merci.
Alors il y a un aspect un peu pragmatique qui est que mon éditeur me demandait si je leur écrirais pas éventuellement un deuxième livre, puisque le premier avait à peu près bien fonctionné, et ils m'ont demandé ce sur quoi je voulais écrire, et le thème de la douceur s'est imposé pour, je dirais, 2 raisons principales. La première, c'est que dans l'accompagnement spirituel, dans les confessions, j'étais assez frappé de la récurrence de la colère, de la rage, d'une sorte de bouillonnement intérieur qui, d'une certaine manière, est de toutes les époques, mais que je n'avais pas perçu, ou pas à ce point jusque-là, et ce jusque chez des personnes chez lesquelles je ne les aurais pas soupçonnées. Et donc je me suis dit, là il y a quelque chose qui est peut-être propre à notre époque ou pas, mais en tout cas cette espèce de colère, de rage, etc. Et quand je parlais de la vertu de douceur à ces gens-là, il y avait toujours une sorte d'incompréhension ou de ricanement, ou en tout cas de oui d'accord, on ne sait pas ce que c'est la douceur, et c'est pas ça qui va régler nos affaires. Et donc je me suis dit, là il y a peut-être quelque chose à creuser, parce que la réaction, je la comprends, mais elle n'est pas tout à fait juste, il faut corriger ça. Et la deuxième raison, et c'est un peu lié, c'est que souvent des garçons ou des hommes masculins, j'entends, venaient me voir et me disaient, oui, dans l'église on parle du soin, de la tendresse, de l'attention à autrui, etc. Tout ça c'est très bien, mais enfin nous on est des hommes, et on a un peu l'impression que les valeurs que l'église défend sont exclusivement des valeurs féminines, et on ne s'y retrouve pas. Et je me suis dit, là il y a quelque chose qui va pas, parce que ça veut dire que dans leur tête, à ces personnes-là, la douceur s'oppose aux valeurs de la tendresse, du soin, de l'attention, etc. Et puis, malgré tout, il y a peut-être quelque chose dans la manière dont l'Église le présente qui fait qu'en effet, on ne prêche pas assez sur le fait que la douceur, ça va avec la force, ça va avec le combat, ça va avec la magnanimité, et que donc, il y a quelque chose là à creuser. Donc c'est vraiment ces 2 raisons-là qui m'ont fait dire, il faut que je réfléchisse, que je lise, que je médite un peu là-dessus, et puis d'essayer d'en faire profiter le plus grand nombre ensuite, parce que c'est un enjeu.
Alors, comment définir, là, on a, dans ces premières minutes, dans les échanges que nous aurons au fil des jours, comment définir cette tendresse, très simplement, et cette tendresse qui devrait s'exercer au quotidien de nos vies. Et je pense à ceux et celles qui vous écoutent, qui vous découvrent, frère Jean-Thomas de Beauregard. Donc, la tendresse, et ça revient aussi dans votre ouvrage, et j'invite les auditeurs aussi à le découvrir et le lire, Hardil et Doux. Vous répétez bien souvent que cette douceur n'est pas une faiblesse, mais au combien une force capable d'aller jusqu'à la réconciliation.
Alors, je dirais que, effectivement, ça c'est peut-être la formation dominicaine à l'école de Saint-Thomas d'Aquin qui fait
une
ça.
Bonne formation.
Mais on pourrait commencer presque par la définir par la négative, c'est-à-dire ce que la douceur n'est pas. Et elle n'est pas effectivement cette espèce de mièvrerie un peu doucereuse, un peu sucrée, que l'on aurait tendance éventuellement à voir dans la douceur, une sorte de, oui, de faiblesse érigée en vertu, de quelque chose qui serait, voilà, qui serait pas compatible avec, en effet, la force. Or, si on devait définir la douceur en quelques mots, à un moment, je dis ça dans le livre, je le répète d'ailleurs plusieurs fois, on peut la définir en trois temps. Je dirais que, d'abord, le premier temps, c'est que la douceur, c'est le fait d'accompagner l'action, mon action et l'action d'autrui, vers le bien. Il y a quelque chose, et ça c'est très important, j'insiste sur le verbe, de l'accompagnement. Accompagnement vers le bien. Accompagnement de l'action, celle d'autrui ou la mienne propre, vers le bien. Ça, c'est le premier temps. Le deuxième temps, de laisser l'autre être ce qu'il est sans me désintéresser de son bien. Et ça, c'est une ligne de crête pas évidente. C'est-à-dire, à la fois, ne pas le forcer à être ce qu'il n'est pas, ne pas le forcer à rentrer dans nos cases et dans les étiquettes dans lesquelles on voudrait le mettre, et en même temps, ne pas me désintéresser de son bien. Le but, ultimement, c'est quand même que chacun de notre côté, et ensemble, si possible, nous progressions vers le bien. Ça, c'est la deuxième étape. Et puis, la troisième étape, c'est réfréner, ou plutôt ajuster la colère. Il ne s'agit pas de la supprimer, il ne s'agit pas de la nier, la colère. On n'est pas des bons bouddhistes de carte postale dans le christianisme. On a des colères, on a des passions, et c'est le bon Dieu qui nous les a données. Donc, réfréner ou ajuster la colère pour qu'elle soit proportionnée, quant à son expression, au bien de la situation et au bien des personnes. Et donc, mesurer, réguler cette colère en fonction du bien de la situation et du bien des personnes. Et si vous mettez ces trois temps en même temps, eh bien, vous obtenez ce que j'entends, en tout cas moi, ça vaut ce que ça vaut, mais par la douceur chrétienne.
Cette douceur chrétienne au quotidien, puisque vous parlez d'accompagnement, vous parlez aussi d'écoute, cette douceur peut s'acquérir par une maîtrise, un travail sur soi, une réconciliation avec soi, une conversion intérieure de l'homme.
Alors en tout cas, et c'est peut-être le point de départ, je crois, et la plupart des auteurs spirituels avant moi le croient aussi, que la douceur n'est pas un tempérament. Ce n'est pas quelque chose qu'on trouve au berceau ou simplement par la première éducation. On n'est pas doux par tempérament. On est doux en fonction d'une vertu. Et la vertu, soit elle nous est donnée par Dieu, soit nous l'acquérons par des actes, en règle générale, un peu des deux. Mais donc ça veut dire que, surtout, n'ayons pas l'idée que « Ah ben moi, c'est pas de bol, je suis né comme ça, je suis pas doux, au contraire, je suis violent. » Ou au contraire, « Ah ben moi, ça tombe bien, je suis doux par tempérament, donc j'ai pas besoin de me donner plus de mal. » Non, la douceur, elle se demande à Dieu et elle s'acquiert par nos actes.
Voilà, donc on entend bien, chers auditeurs qui écoutez, cette douceur, on est d'accord, frère Jean-Thomas, il faut la demander.
Il faut la demander, évidemment. D'une certaine manière, tous les actes que nous posons ensuite de l'ordre de la conversion personnelle, ils n'auront d'efficacité qu'à proportion du fait que nous aurons plus demandé au bon Dieu, à la Vierge Marie, aux saints, etc., de nous donner cette douceur.
Alors, puisque vous parlez des saints, frère Jean-Thomas, dans votre livre, vous citez de nombreux saints, de Sainte Thérèse d'Avila, à Saint Jean Chrysostome, qui avait, et vous l'écrivez dans votre livre, un tempérament de feu, et paradoxalement, ce tempérament de feu de Saint Jean Chrysostome, il était un grand prédicateur de cette douceur.
Alors, il y a quelque chose de logique, c'est que d'abord, tous les prédicateurs le savent, on se prêche à soi-même. Et donc, puisqu'il avait un tempérament colérique, il était logique qu'il prêche sur la douceur, parce qu'en réalité, c'était son combat. Ça, c'est la première chose. Mais d'une certaine manière, c'est intéressant que vous vous posiez cette question-là, parce que ça illustre ce que je disais à l'instant, à savoir, la plupart des grands docteurs de la douceur sont au départ des colériques, des violents, des sanguins. Et donc, ça nous montre bien que ça s'acquiert, ça se demande progressivement. C'est un travail. Oui, bien sûr, c'est un travail. Alors,
il y a une ascèse.
Il y a une ascèse, et puis, bon, parfois, le Seigneur, évidemment, est bon et nous donne des petits coups de pouce divins, et ça, ça fait plaisir. Mais en attendant, ça ne se présente pas comme une évidence et quelque chose qui nous arriverait comme ça, sans qu'on ait eu un peu de conversion personnelle à opérer en nous. De telle sorte d'ailleurs que ça n'est qu'un petit paradoxe, mais qu'il faut parfois se faire violence à soi-même, on y reviendra probablement à un moment ou un autre, pour acquérir la douceur.
Alors ça c'est aussi tout un travail, tout un cheminement et puis une part aussi de volonté. Frère Jean-Thomas de Beauregard, on vous suit demain à la même heure et jusqu'à la fin de la semaine, mais surtout on peut aussi également donc vous entendre sur nos radios chrétiennes, mais vous lire. Ce livre est paru récemment aux éditions du Cerf, il s'intitule « Ardil et doux, petit éloge de la douceur ». À demain, même lieu et même heure. Merci.
À demain, merci.
Présence. Présence avance. Une meilleure antenne, une meilleure écoute, un meilleur programme. Pour répondre toujours plus à sa mission, Présence vous invite à la solidarité. Nombreux sont ceux qui, en zone rurale isolée, souhaitent entendre Présence. Ce service nécessite un coût important en investissement et en entretien de matériel. Présence ne peut le financer sans vous. Nous avons besoin de vos dons. Votre soutien à Radio Présence est un don libre. Il finance la radio que vous avez choisie. Pensez-y.
Des clés pour vivre, l'intégrale.
C'est un deuxième entretien avec, pour intervenant, frère Jean-Thomas de Beauregard, dominicain. Bonjour frère Jean-Thomas.
Bonjour.
Auteur de ce deuxième livre qui est paru aux éditions du Cerf et que je conseille, Ardil et doux, petit éloge de la douceur. Alors, un peu, dirons-nous, mais beaucoup de douceur et cette douceur du Christ. Un beau parfum aussi dans ce deuxième entretien. Vous citez dans votre ouvrage de nombreux docteurs de l'Église, de nombreux saints. Page 48, juste un petit extrait, il est du 4e siècle, c'est Saint Grégoire de Nazianze qui écrit « Jésus est celui qui est douceur et tout entier désir ». Est-ce que vous pouvez déployer cette douceur marquée par ce désir chez Saint ouais. Grégoire de Nazianze ?
Alors, la première chose peut-être, c'est que la douceur, c'est avec l'humilité et la charité, les trois seules vertus pour lesquelles le Christ se donne explicitement en exemple. De soi, il est le modèle de toutes les vertus, mais il n'y en a que trois pour lesquelles il le dit explicitement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, la charité. Et puis, mettez-vous à mon école car je suis doux et humble de cœur. Donc, humilité, douceur, charité. Donc, le Christ se définit d'une certaine manière lui-même par la douceur. Et puis, dans la citation que vous avez lue là de Saint Grégoire de Nazianze, il dit qu'il associe donc la douceur du Christ au fait que le Christ est tout entier désir. Et quand j'ai lu ça, ça m'a intrigué parce que je me suis dit, très bien, mais le Christ, il est Dieu. Donc il a tout ce qu'il lui faut. Normalement, lorsqu'on désire quelque chose, c'est qu'il nous manque quelque chose, qu'on n'est pas parfaitement dans la plénitude de ce à quoi nous sommes appelés. Or, le Christ, s'il est vraiment Dieu, certes, il est vraiment homme, mais sa nature humaine est unie à sa divinité, qu'est-ce qui peut bien désirer le Christ ? Et en réalité, ce que désire le Christ, c'est nous. Ce que désire le Christ, c'est que cette douceur que lui, d'une certaine manière, possède en perfection d'emblée parce qu'il est Dieu, eh bien, il veut nous la communiquer à nous. Le salut, la béatitude que lui possède d'emblée, il veut nous les communiquer. Cette merveilleuse vie au sein de la Trinité que lui a déjà, il désire nous les communiquer. Donc en fait, quand Saint Grégoire de Nazianze dit que Jésus est tout entier désir et qu'il l'associe à la douceur, c'est ça qui est derrière, c'est que Jésus désire follement, désire ardemment que nous partagions tout ce qu'il a. Et ça va colorer en fait sa propre douceur, y compris dans ce qu'elle peut avoir d'un peu paradoxal. Quand Jésus, à certains moments, peut donner l'impression, d'ailleurs pas complètement fausse, de se mettre en colère ou d'avoir une sorte d'ardeur un peu virile, si je puis dire, eh bien en fait on le comprend à la mesure de son ardent désir du salut des âmes, de nous arracher du péché, de nous arracher de la mort, et puis de nous faire entrer dans la vie divine. Il le désire tellement que ça mobilise toute une énergie, et sa douceur va être colorée par ce grand désir.
Donc colorer une douceur, et vous en parlez aussi, et vous donnez aussi des citations, douceur et fermeté.
Bien sûr.
Fermeté, autorité, mais une autorité du Christ, qui est une autorité d'amour, et vous l'avez souligné, en vue du salut des âmes. En fait, c'est la soif de Jésus. Cette douceur du Christ est une soif infinie des âmes.
Et c'est le dernier cri du Christ en croix. Lorsqu'il dit « j'ai soif » sur la croix, évidemment, il a soif parce qu'il est exposé au soleil, qu'il étouffe, qu'il a été torturé, etc. Mais au sens spirituel, il est évident que le « j'ai soif » de Jésus en croix, c'est « j'ai soif » de communiquer l'Esprit Saint aux hommes. J'ai soif de leur salut, j'ai soif de les arracher et j'ai soif en fait de leur réponse d'amour à ce que je suis en train de leur offrir. Et donc c'est ça ce grand désir du Christ, et qui est un désir, vous voyez, le fait qu'il ce cri-là, il le prononce à la croix, ça donne un poids de gravité à sa douceur. C'est pas une douceur lénifiante. Ça veut pas dire qu'elle n'est pas empreinte de tendresse jusqu'à la croix, et c'est ça qui est paradoxal et merveilleux. Jusqu'à la croix, il y a une sorte de tendresse. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais une gravité, parce qu'il y a un enjeu. Et un enjeu qui est de vie ou de mort.
Vous parlez de ce don extrême, de ce cri de Jésus sur la croix. On touche de près, on revient, on ne perd pas de vue aussi tout le thème de votre livre, qui est cette vertu de douceur. Sur cette croix, on peut lire l'extrême douceur du Père qui offre son Fils. Ce mystère de la croix est un grand mystère, c'est paradoxal, permettez-moi, frère Jean-Thomas, mais d'une grande douceur, extrême douceur.
Oui, notamment...
C'est un baume qui vient donner cette douceur à toute l'humanité pour sauver cette humanité.
Et en particulier, je dirais que par la croix, la grande douceur du Christ se manifeste dans le fait qu'il rejoint nos souffrances. C'est-à-dire que à la limite, du simple point de vue de ce que Dieu est, de sa toute-puissance, Dieu aurait pu nous sauver de mille manières et de manière beaucoup moins terrible pour le Christ, de manière beaucoup moins douloureuse.
Et moins scandaleuse.
Hein. Et moins scandaleuse. Mais il choisit de le faire de cette manière-là parce que ainsi, plus aucun homme sur la terre n'est seul dans sa souffrance. Plus aucun homme sur la terre ne peut dire « je suis dans ma souffrance » et je suis absolument abandonné de tous. Bien sûr, au plan psychologique, quelqu'un qui souffre terriblement peut se sentir abandonné. Mais fondamentalement, il ne l'est pas parce que le Christ est avec lui. Le Christ est passé par là. Et ça, c'est une douceur qui n'est pas mièvre. Ça, c'est une douceur qui va au fond des choses, qui va jusqu'au fond de la souffrance. Vous parliez de baume. Le baume, il est là pour être appliqué sur des plaies. S'il n'y a pas de plaie, il n'y a pas besoin de baume. Mais le Christ est ce baume qu'il applique sur nos plaies en venant lui-même être affecté par ses plaies. Il ne vient pas supprimer les souffrances, mais il vient les habiter avec nous, y mettre un baume. Et l'image du baume, de ce point de vue-là, est parlante, parce que le baume ne supprime pas la souffrance, mais l'adoucit. L'adoucit, la rend supportable et lui donne un sens. Et je crois que ça, c'est vraiment capital pour ce qui est de la douceur du Christ à la croix. Dans le livre, justement, je ne m'étends pas beaucoup dessus parce que c'est le mystère de la personne et de la personne qui souffre. Et que d'une certaine manière, il y a toujours un risque à développer là-dessus, d'être dans une sorte d'indécence de celui qui parle théoriquement de quelque chose qui est existentiel et très difficile. Mais donc on s'arrête au seuil, mais on dit juste, voilà, le Christ est là. Et il communique ce baume qu'est l'Esprit Saint,